Bienvenue à la table ronde numéro 3 du congrès du SNAP-CGT. Identifier et combattre les discriminations dans le monde de l'art. Avec Sophie Vella, étudiante pour l'asso Les Mots de Trop, Marie Daucher, photographe, et Pascale Obolo, cinéaste, chercheuse et plasticienne.
Ce week-end, nous invitons des artistes, des experts, expertes, spécialistes et représentantes et représentants de structures professionnelles à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l'artiste-auteur, l'artiste-autrice au travail compose et se confronte au quotidien, notamment à l'absence de rémunération. Nous souhaitons mener une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l'ouvrir aussi aux utopies. Au plaisir de se rencontrer, échanger et débattre pour faire vivre le syndicat et faire reconnaître notre travail.
Épisode 11. Action des institutions dans les écoles d'art et les musées.
De ces problématiques, parce que là du coup on parle de démarches qui sont individuelles ou de collectifs ou d'activistes et c'est de là que ça part toujours, ça part très rarement, quasiment pas de volonté politique, mais elles sont ressaisies pour de diverses manières, et j'aimerais bien qu'on parle de comment elles sont ressaisies et est-ce que à nos sens c'est satisfaisant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille dans une direction qui nous satisfasse. Je parle, quand je parle d'institutions publiques, je parle d'institutions muséales, de diffusion, etc. Plus largement, on peut aller jusqu'au ministère de la Culture. Mais peut-être commençons par les institutions de diffusion des œuvres. Je sais que Pascal, on en a... Tu peux peut-être commencer là-dessus.
Je ne sais pas si... Les choses ont un petit peu changé, un petit peu, mais ça reste quand même du vernis. Après Black Lives Matter, c'est vrai qu'à l'étranger, beaucoup d'institutions muséales se sont remises en question suite à cela. En France, il y a un petit peu plus d'artistes racisés qui sont montrés dans les institutions, mais la manière dont ils sont montrés, ça pose problème parce qu'ils restent toujours, ils sont toujours montrés comme des corps objets, et donc il y a un logiciel en fait à revoir en termes de monstration, en termes de pratique curatoriale, comment montrer l'autre, qui est cet autre, et en termes de récit aussi, et puis. Mais en fait, moi, je pense que les choses n'ont pas réellement changé et que c'est compliqué actuellement. Moi, j'y crois beaucoup en fait à l'éducation, que ça doit venir en fait. Le changement ne pourra se faire que si effectivement dans les écoles qui forment les professionnels qui officient en fait dans les institutions muséales. Ils sont au fait de ces problématiques-là. Peut-être qu'il y aura là un changement, mais je trouve que actuellement il n'y a pas, en tout cas en France, Black Lives Matter, ça n'a pas vraiment changé quelque chose.
Peut-être qu'on peut du coup parler au niveau au-dessus de comment le ministère de la Culture prend en charge ces questions, notamment avec la question de la feuille de route égalité et diversité pour laquelle tu as été sollicitée. Marie, c'est bien ça?
Non, j'ai pas été sollicitée,
T'as travaillé un peu avec eux sur ce projet. Est-ce que tu peux au moins, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, etc., présenter ce que c'est et du coup nous dire en quoi tu es intervenue là-dedans?
Oui. Alors, quand moi j'ai commencé à travailler sur ces questions, je suis allée écouter une sociologue de l'art et du travail qui s'appelle Marie Buscato. Et dans sa conférence, d'ailleurs c'est là où on s'est rencontrés, Marie. Et dans la conférence, elle dit « Rien ne bouge dans les mondes de l'art sans politique publique volontariste ». Ah, bon. Et donc, forcément, quelqu'un dit « Mais est-ce qu'il y a des politiques volontaristes en France ?» Et elle dit « allez regarder, il y a des études qui sont faites depuis les rapports Rennes-Pratt. Donc que j'ai là du coup beaucoup étudié les rapports Rennes-Pratt, c'est plutôt le spectacle vivant, hein, mais ça date de 2009. Et il y a beaucoup d'études, etc. Donc j'ai commencé un peu à les regarder, et puis entre temps j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé le projet visuel.art, et un jour au ministère je vois qu'il y a un rendu d'études qui m'intéresse sur ces sujets, et donc j'y vais. Donc je suis dans une salle, je suis derrière, et il y a les gens du mouvement HF. Je ne sais pas si vous voyez HF, super important. C'est quand il y a eu les rapports Rennes-Pratt, donc en 2009, à Lyon, des gens du spectacle vivant se sont mobilisés pour avoir de l'argent public et avoir des rôles d'alerte, notamment dans le théâtre, voilà, avoir des saisons égalité, etc. C'est des gens qui ont fait, hommes et femmes, qui ont fait beaucoup avancer les saisons égalité dans le théâtre. Bon. Et donc, ils sont dans différentes régions, et il faut voir quand même des choses qui bougent. Par exemple, en Pays de Loire et surtout Bretagne, alors que HF avait un rôle d'alerte, maintenant ils sont dans un rôle d'accompagnement. Ça veut dire que beaucoup d'institutions ont bougé, ont compris qu'il y avait des problèmes à différents niveaux et qu'elles avaient besoin d'être accompagnées. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a des mobilisations qui avancent. Et donc, il y avait des gens d'HF qui étaient là et qui disent « oui, c'est bien cette recherche, etc. » Mais ça passe pas dans les publics, ça passe pas dans les politiques publiques, etc. Et moi, j'avais mon idée de faire tout ce que j'avais fait comme parcours, mais de faire des vidéos, de produire des outils, en fait. Et donc, je dis, moi, je voudrais faire des vidéos, justement, où je vais faire passer cette recherche parmi les publics. Et il se trouve que la haute fonctionnaire à l'égalité était là, dans la pièce. Et elle me dit, envoyez-moi une note. Donc, je lui envoie une note et elle me répond 2 heures plus tard, ça m'intéresse, contactez la DGCA, etc. Et c'est là où je rentre en contact avec la DGCA, donc Direction Générale de la Création Artistique, pour arriver à financer ce projet de faire des vidéos. Et puis, et que je rencontre effectivement Agnès Salle, qui est en train d'élaborer la feuille de route égalité, et je me retrouve en face de quelqu'un qui, au fond, fonctionne un peu comme moi je fonctionne, c'est-à-dire en réseau. C'est-à-dire que moi, dès le début, quand j'avais créé mon blog, je me disais, il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait des militants, il faut qu'il y ait des publics, il faut qu'on arrive à faire passer tous ces... Parce que souvent, il y a des barrières entre ça. Et donc, je me retrouve en face de quelqu'un qui dit, mais on va échanger. Et il y a eu de réels échanges, et je vois avec d'autres personnes, et il se trouve qu'ainsi, il y a un dialogue qui s'est instauré. Et que je vois qu'il y a une véritable volonté, un véritable travail. Alors après, on est dans des institutions qui sont lourdes à bouger. Parce que une personne, c'est une chose, toute volontaire qu'elle puisse être. Il y a quand même, je crois que le ministère, c'est 99 institutions, c'est énorme. Donc il y a des chantiers qui ont été mis en place. Alors, je voudrais donner une petite note d'optimisme, si c'est possible. Un des premiers chantiers, ça a été le CNC. Centre national du cinéma, et on comprend bien pourquoi, parce que le cinéma propose des représentations de façon forte, massive. En fait, c'est quelque chose de très très important, le cinéma. Et c'est là où il y a de l'argent, en plus. J'en reviens toujours, je crois que je suis obsédée par l'argent, mais non. C'est juste que c'est très important. Et c'est là où il y a de l'argent, il y a des manques de représentation effrayants, voilà. Et donc, il y a eu des choses mises en place, des choses très contraignantes, notamment, par exemple, que si vous voulez réaliser un film, vous devez assister à 2 jours de formation aux violences, aux discriminations, etc. Alors, il y en a qui ne s'appelaient pas, et vous ne pouvez pas envoyer votre assistante. Hein. Il va falloir y aller. Tant, il y a eu, notamment par les femmes, il y a eu des pressions, il y a eu des échanges qui ont fait quand même bouger les choses. Alors, je voudrais, peut-être que je suis naïve, mais... Les Oscars, les 5 films qui ont été finalistes pour envoyer un film qui allait représenter la France aux Oscars cette année, sur les 5 films, 4 étaient faits par des réalisatrices. Je ne sais pas si vous vous projetez 5 ans en arrière, c'était carrément lunaire comme hypothèse. Et le film qui part est tourné par une femme noire qui parle de l'histoire d'une femme noire avec des artistes noirs. Il n'y a aucune star avec un budget limité et qui a peut-être de fortes chances de gagner. Donc, j'ai besoin des fois de me faire du bien. Alors tout ça, bien entendu, est lié avant tout au talent et au travail acharné d'Alice Diop. Mais je pense qu'il y a un gros travail et que des choses, je l'espère, bougent. Bien entendu, tout est rapidement réversible, malheureusement, sur ces questions. Mais quand même, 4 films finalistes pour les Oscars avec 4 réalisatrices, peut-être que Marie Buscato a raison en disant qu'il faut quelque chose de très, très volontariste. Mais ça grince de partout. Hein. Mais cette configuration, ne serait-ce que pour les Oscars, me semble très nouvelle, en tout cas. Si je peux parler de la grande commande photographique qui vient d'avoir lieu, c'est une grande commande photographique du ministère de la Culture gérée par la BNF. Il y a 100 photographes qui ont été sélectionnés pour cette année, 100 pour l'année prochaine. C'est une radiographie de la société française. Ça, c'est le thème. Et après, on est sélectionné en fonction des thèmes qui ont été proposés. Le ministère, je le sais de source sûre, aux deux sessions donc de sélection des dossiers, insister sur le fait qu'il fallait être vigilant, ouvrir son esprit et regarder avec intérêt les travaux des femmes et des personnes racisées. Parce que c'est pareil, généralement dans les compétitions photo, moi je les connais tous, hein, ceux qui sont racisés, ils disent oui, ben alors si c'est lui, ils auront coché la case, nous on les aura pas. Bon, ben là ils ont tous été sélectionnés, donc ça c'est plutôt bien. Ils ont été sélectionnés pas parce qu'ils sont arabes, hein, c'est parce qu'ils ont des bons dossiers. Mais le ministère a vraiment insisté, d'ailleurs ça a râlé dans le jury, hein, en disant il faut absolument que vous ouvriez un peu vos écoutilles. Et c'est pareil, le nombre de femmes, on arrive à 40% de femmes, ce qui est énorme par rapport à il y a ne serait-ce que 5 ans. Donc voilà, ça c'est mes petites sources d'enthousiasme. Bien entendu, on peut m'opposer sans contre-exemple. J'en suis bien d'accord. Mais voilà, je trouve que ces deux choses, moi qui compte, je vois la différence. Ouais.
Et je t'ai coupé tout à l'heure, Pascal, c'était sur ça que tu voulais enchaîner. Et du coup, peut-être que c'est le moment où tu peux reprendre où tu en étais tout à l'heure sur cette question de la feuille de route. Je t'ai coupé, donc tu peux reprendre. Peut-être
ben non, mais je trouve Marie très, très optimiste. D'accord. Moi, je suis plutôt. Pourtant, je suis une personne assez optimiste, mais là, quand on voit toutes les dernières nominations en termes de direction de musée, et des hommes, en majorité. Oui, mais Beaux-Arts, c'est-à-dire que le Macval, elle a quitté le Macval et qui l'a remplacé au Macval, c'est un homme. Non. Donc, je te trouve très, très, très. non, mais c'est des positions de pouvoir qui font que quelque part, il va y avoir une politique qui va être mise en place dans ces institutions. Donc, moi, je trouve qu'il y a plutôt une régression, en tout cas, de ce côté-là, surtout dans les arts visuels. C'est vrai que dans le cinéma, peut-être que comme ils sont beaucoup plus syndiqués, il y a beaucoup plus de militants, il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. Donc ça bouge vachement plus, on voit les effets, etc. Mais en ce qui concerne les arts visuels, on est vraiment, vraiment, très, 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 très en retard. Et on a plutôt, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une forme de conservatisme et que ça avance pas des masses, quoi. On retourne plutôt en arrière parce qu'à un certain moment donné, il y avait quand même une volonté du ministère qui est en fait quand même un petit peu plus de femmes qui soient à des postes de direction dans les musées. Et là, on revient quand même, c'est quand même assez, en tout cas pour moi, c'est assez problématique. N'en parlons même pas, moi je ne vais même pas rentrer sur ça en ce qui concerne des personnes racisées qui un jour pourraient diriger un musée, on n'en est pas encore là en France, mais en ce qui concerne en termes de parité, moi je trouve qu'il y a une vraie régression.
Oui, donc peut-être qu'il y a d'un côté pas des effets d'annonce, mais des figures et que dans le travail de fond, il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment, sinon on ne serait pas là en train de discuter. Oui, c'était un peu sur... Oui. Bah, on va. Peut-être vous pourrez prendre la parole. On passe la parole à la salle dans quelques minutes. Je voulais juste qu'on ouvre un peu le débat, mais vous pourrez intervenir avec plaisir sur la question de, parce que en travaillant les arts visuels, la question des images, des représentations, on peut aussi voir la question dans l'autre sens, c'est que si on travaille vers un milieu artistique, un milieu des arts visuels plus égalitaire, plus représentatif, plus inclusif, ça peut aussi, pour une société plus égalitaire, plus inclusive, plus égalitaire. Et donc, j'aurais bien aimé qu'on parte sur des exemples plus, des choses positives et vers quoi on peut aller, et aussi en tant qu'organisation professionnelle, vers quoi on peut aller pour plus d'égalité et voilà, et je ne sais pas où je vais avec cette question. Si c'est quelle était peut-être vous pouvez nous parler de notamment, peut-être on peut commencer par toi Sophie, je me perds, pardon, exemples hyper concrets de projets, d'initiatives qui permettent de répondre à ces questions dans la société, et notamment avec l'initiative Bye Bye Pinari. Peut-être que tu peux nous en parler.
Désolée, je suis un peu perdue parce que là j'ai un peu l'impression d'avoir été super spectatrice et tout de suite passée à Bye Bye, qui n'est pas vraiment le sujet du jour, mais je vais en parler quand même, du coup c'est chouette. Mais avant de venir là-dessus, j'aimerais bien te parler quand même un petit peu des mots de trop, parce que c'est c'est pour ça que je suis là. En termes d'outils concrets, de choses positives qu'on peut voir, nous, là, en ce moment, on travaille sur... donc, je le disais tout à l'heure, on fait des outils et on travaille notamment sur une édition dans laquelle on essaye de répertorier des initiatives étudiantes en école d'art qui montrent qu'en fait, c'est possible de se mobiliser, de faire des choses pour que ça avance. Donc, on liste toutes les initiatives qui sont présentes aujourd'hui en donnant la parole aussi à certains collectifs dont... par exemple le syndicat Le Massico qui a pris la parole ce matin, ou des initiatives comme les Cyber Sista, dont il y avait une représentante aussi qui a dû partir, qui sont des collectifs qui en fait essayent vraiment de faire bouger les lignes dans l'école, et on en a parlé au début un tout petit peu, donc je vais y revenir parce que pour moi c'est important, cette question de la charte de l'ANDEA. En fait toutes les écoles d'art publiques françaises doivent signer une charte proposée par l'ANDEA, qui est l'association de ces écoles, ou écrire leur propre charte. Dans la majorité des cas, cette charte est simplement signée et il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est plus simple de signer un truc qui nous est proposé que de vraiment réfléchir à écrire une charte contre les discriminations, notamment. Et donc, je parlais des Cyber Sista parce que c'est une collective qui a écrit sa propre charte et qui a en fait été refusée par l'administration. Et en fait, pour nous, parler de ce genre d'initiative, c'est vraiment montrer qu'en fait, il y a des champs d'action possibles. On ne dit pas que ça va répondre positivement derrière, mais nous, ce qu'on a aussi envie de montrer, c'est que partout, en fait, il y a des gens qui se mobilisent et qu'il y a un champ des possibles qui existe et qu'il faut continuer, même si c'est usant, qu'on n'est pas payé et que ça nous fatigue, à mettre en place ce genre de choses, parce que ça peut paraître peut-être anodin, cette charte, mais pour moi, c'est comme la feuille de route. C'est des choses qui sont censées quand même donner une directive. Et de dire, en fait, de montrer quelque part, en fait, c'est écrit là et on a signé qu'on était contre les discriminations, en fait, et on a signé qu'on voulait une égale représentation des hommes et des femmes dans les cours, ou des personnes blanches et des personnes racisées dans les cours de culture de l'art. Et ben, en fait, ce papier est là et il faut le respecter. Alors, c'est pas si simple, mais voilà, pour nous, cette charte, c'est vraiment un outil et on sait qu'il y a plusieurs collectifs qui essayent de s'emparer de ça. Et une des clés en école d'art, par exemple, pour faire bouger les lignes en termes d'égalité de genre, et je ne parle pas seulement de sexisme, mais bien d'égalité de genre, c'est donc la question du langage et des pronoms qui sont utilisés. En fait, il y a... Voilà, donc là, j'ai essayé de faire le lien, du coup, avec Bye Bye Binary, qui est une collective de typographes et de graphistes qui propose de nouvelles formes d'écriture au-delà des normes binaires féminin-masculin. Et en fait, le fait dans les institutions de s'emparer de ça, ne serait-ce que de s'emparer de l'écriture inclusive, c'est déjà une piste pour dire qu'on inclut chacun et chacune. Ça peut paraître bête, mais une première piste pour créer une égalité ou au moins avoir l'impression qu'on est considéré, c'est de recevoir un mail qui ne commence pas par « bonjour à tous ». Voilà, c'est des petits détails qui font qu'en fait, on se sent exister dans l'école, on se sent respecté. Voilà, donc c'est une première action de faire... je sais que tout à l'heure, on parlait aussi de l'extrême droite et tout. Je sais que c'est quelque chose qui... C'est vraiment le char de bataille, l'écriture inclusive. Mais en fait, c'est un vrai outil. C'est pas... c'est vraiment, je pense, important. En tout cas, nous, c'est un outil qu'on utilise aussi. Et je parlais rapidement des pronoms. Et je vais faire le lien avec le Massico qui a fait récemment une campagne de sensibilisation sur le fait de pouvoir demander à l'école d'utiliser les bons pronoms et de pouvoir donner son prénom d'usage en fait dans l'école pour à nouveau en fait acter que oui, il y a des personnes queer en école d'art et oui, elles doivent être respectées. Et là, je vais partir juste d'une expérience très récente. Donc au Beaux-Arts de Rennes où je suis, il y a un collectif qui s'est monté il y a 2 ans qui s'appelle La Claque, qui est un collectif intersectionnel. Et il y a eu une réunion en non-mixité queer à la rentrée où il y avait 40 personnes. On est 300 dans l'école. Donc, c'est-à-dire que 40 étudiants et étudiantes sur 300 sont des personnes queer. Et voilà. Et donc, de mettre en place des outils qui font que les personnes vont déjà être conscients et conscientes qu'on existe, c'est déjà beaucoup. Et donc, ça fait partie du travail qu'on mène dans ces collectifs. Je crois que je me perds un peu. Je vais m'arrêter là.
Non, c'était hyper clair. Merci.
Oui. En fait, nous, suite au numéro qu'on a fait sur les discriminations en école d'art, normalement, qui devrait sortir en décembre, on a mis, par rapport aux attentes des étudiants avec lesquels on a travaillé sur cette recherche pendant un an et demi, on a mis en place un projet qui s'appelle la bibliothèque augmentée, qu'on a, peut-être là, on va commencer à travailler en fait avec l'école des Beaux-Arts de La Réunion, qui sont intéressés par ce projet. Et en fait, l'idée, c'était suite pour aider en fait les étudiants qui travaillent sur des questions décoloniales et qui n'avaient pas d'outils aussi. Et puis aussi, pour une meilleure représentation, pour réécrire une histoire de l'art plus inclusive, on a en fait l'idée de ce projet, c'est de... On a une manne, en fait, d'auteurs, de publications. On a créé, en fait, une bibliothèque augmentée. Et l'idée, en fait, c'est de la partager en fait avec différentes bibliothèques dans les écoles d'art, parce qu'en fait, suite aux témoignages, beaucoup d'étudiants racisés ont dit qu'en fait que dans leur bibliothèque en école d'art, il y avait très peu de monographies, de catalogues, de textes critiques sur les questions décoloniales, ou même sur des artistes d'origine afrodescendant, il y en avait pas. Et nous, on a en fait cette bibliothèque augmentée et qu'on propose en fait de travailler avec les écoles qui sont intéressées pour lutter contre les problèmes de discrimination raciale, de les mettre à disposition pour que si les bibliothécaires peuvent acheter en fait ce livre, qui vont pouvoir en fait aider certains étudiants qui travaillent sur ces questions-là par rapport à leur mémoire. Ça les faciliterait en fait par rapport à leur recherche et puis aussi par rapport en termes de projection, de se dire qu'en fait il y a aussi des artistes de la diaspora qui réussissent, qui gagnent des prix, qui sont dans des biennales, qui font des choses intéressantes et de pouvoir s'en inspirer. Et donc on a ce projet de bibliothèque augmentée, mais qu'on avait un petit peu commencé à expérimenter aux Arts Déco avec un collectif d'étudiants qui luttaient contre les questions de discrimination. Mais en fait, elles étaient 3 étudiantes. Je crois qu'il y en avait une qui était d'origine musulmane, en fait, qui a arrêté pour burn-out à l'école, qui n'a pas pu continuer son année scolaire parce que c'était trop violent. Et du coup, le groupe, leur collectif s'est arrêté. Mais on avait commencé à travailler avec elles et elles avaient commencé à travailler en tout cas avec la personne responsable de la bibliothèque des Arts Déco pour pouvoir en fait acheter en fait des livres sur les questions décoloniales. Et d'ailleurs, on a vu qu'ils ont mis en place Ils ont créé un poste théorique sur l'esthétique décoloniale en art, mais bon, après, c'est toujours la personne qui va transmettre, c'est ça qui est problématique. Voilà. Mais bon, il y a... voilà. On essaie de sensibiliser, en tout cas, à cette problématique. On a des outils, on a des propositions à faire, en tout cas, aux écoles, suite au retour et aux propositions qu'on a eues avec les étudiants qu'on a travaillé pendant un an et demi sur cette thématique-là.
Je dépêche. Donc, voilà, moi, je voudrais... Mon gros dada, moi, c'est les représentations, hein, ou l'absence de représentation. Donc, juste pour vous dire qu'avec le collectif, on a travaillé sur une étude depuis 2 ans sur le portrait de presse photographique. Alors, c'est connecté au monde de l'art parce que tout ça, c'est des représentations. Et souvent, les photographes se réclament de l'histoire de l'art. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais bon. Et parce que des fois, ils n'y connaissent rien. Mais voilà. Et donc, ça paraîtra l'année prochaine aux éditions X. Juste un détail pour vous montrer ce qu'on a démontré en étudiant plus de 1000 portraits de la DER de Libé et de l'invité de Télérama, c'est que par exemple, toutes les personnes qui étaient représentées au sol, c'est-à-dire avec un point de vue dominant, alors les photographes étaient tous des hommes, not all men, but only men, et puis que les personnes au sol étaient à 80% des femmes, noirs, blanches, asiatiques, enfin bon, des femmes. Et puis, quand c'était des hommes, ils sont noirs ou arabes, et quand ils sont blancs, ils sont gays. Donc, on élabore, bien entendu, beaucoup de choses, mais ça, au moins, c'est montré, c'est clair, et quand on l'a montré à une émission d'Arrêt sur image à mi-parcours de notre étude, ça a fait largement changer Libération, puisque maintenant, il y a autant d'hommes que de femmes qui font des photos. Donc, ça change les représentations. Donc, ça sortira l'année prochaine, et sur les représentations, c'est très important. Et puis aussi, j'ai rendu la semaine dernière donc la commande que j'ai faite donc cette année pour la BNF. J'étais la seule à avoir présenté un dossier sur les représentations lesbiennes et je pense que ça fait très 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 longtemps qu'il n'y a pas eu d'argent dépensé sur les lesbiennes. Pareil, là on est carrément dans l'absence de représentation. Donc voilà. Et puis je reste un tout petit peu optimiste. C'est que de militer m'a fait rencontrer des gens merveilleux, dont Pascal.
C'était le 11e épisode des tables rondes du congrès du SNAP CGT. Enregistrement et montage, Clara Rivoisi. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur www.snapcgt.org.